Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Nous allons évoquer Paris ce soir. Alors évidemment, Paris n'est pas la France, mais Paris aimante, fascine, cristallise l'adoration ou la détestation. Je ne vous propose pas une émission uniquement pour les Parisiens, non, mais pour tous ceux qui aiment la littérature et vont découvrir ce soir, grâce à des livres étonnants, un Paris que très peu de gens connaissent, y compris ceux qui habitent cette ville. Voici les mystères et les secrets de Paris, les fantasmes que cette ville charrie également, son histoire bien sûr, et pour raconter Paris, j'accueille sur ce plateau Alix de Saint-André, bonsoir.
Bonsoir.
Alix de Saint-André, vous avez été longtemps journaliste au Figaro, au magazine Elle, à Canal+, également, dans l'émission Nulle part ailleurs. Vous avez quitté un beau jour le journalisme pour écrire des livres et avec un succès constant, je dois dire. Vous racontez aujourd'hui une histoire, alors je ne connaissais pas, incroyable tout de même, celle du Home Pasteur, une pension de famille dans le 7e arrondissement de Paris, 57 rue de Babylone, Paris 7e. L'adresse et le titre. Éric Hazan, bonsoir.
Bonsoir.
Très content de vous recevoir à nouveau. Éric Hazan, éditeur, créateur des éditions La Fabrique, où vous publiez un excellent petit livre qui montre que Paris n'est plus ce qu'il était, mais heureusement. Écrivez-vous, dans le tumulte de Paris. À vos côtés, je ne l'ai pas placé là par hasard, Michel Audin, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous recevoir, Michel Audin. Alors, vous faites partie des gens que j'aime beaucoup parce que vous avez un profil totalement atypique. Mathématicienne de formation,
oui.
Mais historienne également. En tout cas, vous vous faites historienne pour évoquer la Commune. Pas seulement historienne et romancière. La Commune de Paris, dont nous célébrons en ce moment le 150e anniversaire. Vous publiez, Michel Audin, deux livres absolument passionnants, La Semaine sanglante aux éditions Libertalia, et puis José Meunier, 19 rue des Juifs, chez Gallimard. Alors nous avons sur le plateau une ancienne journaliste défroquée, un éditeur, une mathématicienne et historienne, il nous manquait une psychanalyste. Bonsoir Lydia Flemm.
Bonsoir.
Très heureux de vous retrouver. Lydia Flemm, psychanalyste, mais aussi écrivain et photographe. Paris fantasme, c'est le titre de votre livre que j'ai adoré, car il raconte ce livre, mais alors, comme nul autre, une rue de Paris. Pas n'importe laquelle. Celle des Trois Mousquetaires, tout de même. Mais aussi celle de Voltaire, celle de Chateaubriand, de Madame de Lafayette et de 1000 autres pensionnaires. La rue Férou. Est-ce que vous la connaissez ? Cette petite rue qui va du Jardin du Luxembourg à la place Saint-Sulpice. Et enfin, voici l'auteur d'un livre qui m'a stupéfié, Mahmoud Nazimi. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Un Afghan à Paris vient de sortir aux éditions du Palais. Ce livre raconte votre Paris et puis une partie de votre itinéraire, celui d'un jeune Afghan qui fuit son pays, découvre Paris en tant que réfugié, qui dort dans la rue et qui arpente les allées du Père-Lachaise et découvre la littérature. Au Père-Lachaise, vous nous direz comment Balzac, Hugo, Baudelaire, mais aussi Camus et bien d'autres vous ont conduit à apprendre le français et à aimer cette ville, Paris, dont on dit pourtant tant de mal tout en continuant de la visiter. Ça, on va le savoir dans un instant. Première question, mais pour vous tous d'ailleurs, est-ce que l'on peut aimer Paris sans être parisien, en réalité ? Alix de Saint-André.
Mais je pense que c'est pour devenir parisien, il faut évidemment venir de l'extérieur. Tout le monde vient de quelque part, sauf les habitants du 7e qui, eux, prétendent qu'ils sont nés sur place. En quoi ils font une exception à la règle ?
Et comme Éric Hazan. J'ai remarqué que vous étiez le seul sur ce plateau à écrire sur Paris tout en étant né à Paris, Éric Hazan.
Oui, c'est vrai, j'y suis né, j'y ai à peu près toujours vécu, sauf pendant la guerre. C'est ma ville, quoi. Je l'aime.
S'il fallait choisir un mot pour définir Paris, lequel choisiriez-vous, Lydia Flemm ?
Fantasme, évidemment, ou rêve, rêverie, attraction. Je pense que partout sur la planète, on rêve de Paris, parce que Paris a réussi à faire un récit d'elle-même. C'est ça qui est fabuleux, en chanson, en image, en film. Donc tout le monde rêve de Paris.
Y compris les Parisiens.
Je pense, oui. Je crois qu'il y a des gens qui s'émerveillent d'être dans cette ville, comme les Vénitiens, comme d'autres gens qui sont contents d'être là où ils sont.
Je voudrais commencer par une découverte et une histoire incroyable. Il y a les Parisiens qui ne sont pas nés à Paris, on vient de les évoquer, et puis il y a ceux qui viennent à Paris de beaucoup plus loin, comme vous, Mahmoud Nassimi. J'ai été très touché par votre livre, votre franchise, votre ton, les mots que vous employez, la façon dont vous racontez votre découverte, alors à la fois de la littérature française et de Paris. Un Afghan à Paris, c'est le titre de ce livre publié aux éditions du Palais. Vous avez quitté l'Afghanistan, Mahmoud Nassimi, en 2013. Vous êtes arrivé à Paris 4 ans plus tard, réfugié, errant la nuit dans les rues de la capitale, entre solitude et désespoir. À l'époque où vous arrivez, vous ne parlez pas le français, ou très peu, mais surtout, surtout, vous ne lisez pas. Dans quelles circonstances, Mahmoud Nassimi, avez-vous découvert la littérature et la lecture ?
En fait, à mon arrivée à Paris, j'étais accueilli par la souffrance et par la douleur. Pendant 3-4 semaines, j'étais dans la rue, désespéré, abandonné et presque brisé par ma situation et inquiète pour mon avenir, triste par les mauvaises nouvelles de mon pays qui arrivaient tous les jours.
Vous ne connaissiez personne à Paris ?
Je ne connaissais presque personne. Je ne parlais même pas un mot de français. Et un jour, j'ai découvert le cimetière de Père Lachaise, sans le vouloir, sans le savoir.
Mais alors comment ça, sans le vouloir ?
En fait, j'ai marché au hasard de rue tout le jour, parce que dans la nuit, on faisait la queue à Jaurès pour déposer notre demande d'asile. Dans la journée, j'ai marché pour trouver un banc sur un rayon de soleil pour me reposer. Et en marchant, un jour, je suis entré dans le cimetière de Père Lachaise. Et à mon entrée, j'étais fasciné. Je n'avais jamais imaginé un cimetière aussi beau, où chaque tombe serait une source d'inspiration et le début d'une aventure. Tout d'un coup, je me souviens de ma mère qui me disait « Chaque fois que tu vas à une tombe, n'oublie pas de prier, parce qu'un jour tu seras là et les gens passeront en toute sa loi. » Donc, je priais en ma langue maternelle. C'était très froid, une journée très froide. Et tout d'un coup, je me suis arrêté devant la tombe d'Honoré de Balzac.
Sans savoir que c'était la tombe de Balzac ou alors en le découvrant ?
Non, non, je ne connaissais rien. Et en étant un enfant, toujours je nourrissais le rêve de devenir un personnage politique ou militaire dans la société.
Ah, c'était votre rêve en Afghanistan ?
Exactement. Et quand j'ai vu un buste majuscule, imposant, je me suis dit tout d'un coup, tiens, c'est un commandant ou un général ?
Ouais.
Donc, j'ai interrogé le portable sur Google, j'ai découvert, et à un moment, j'étais fasciné par ce personnage. Ce n'était pas un homme, c'était un monde pour moi. Je lisais et c'était extraordinaire, un sentiment que je n'oublierai jamais.
Mais alors, si je vous comprends bien, vous tombez en arrêt devant cette statue en pensant donc, que c'est un général, un commandant français, vous découvrez que c'est Balzac. C'est par la biographie, finalement,
exactement,
de Balzac que vous arrivez à quoi ? À le lire ? À son monde ?
Oui. Donc, quand j'ai interrogé Portable, il m'a répondu que c'était un immense écrivain, c'était le maître de romans français. Et à ce moment-là, moi, j'ai lisé en anglais parce que je ne savais pas la langue française. Donc, petit à petit, je suis entré dans son monde, de ses livres. Et plus tard, j'ai découvert ses livres.
Et tu as commencé par lequel ?
En fait, par La peau de chagrin. Même j'ai quelques passages que j'ai notés dans mon cahier. Et la comédie humaine, ces personnages qu'il avait utilisés dans ses travaux. Et petit à petit, je me suis fait des amis, que les amis m'ont raconté sur sa vie. Donc à partir de ce moment-là, c'était Balzac qui m'a fait signe que va regarder Proust est là, Éluard est là, Edith Piaf est là, Simone de Beauvoir est là, Jean-Paul Sartre est là. Donc jour après jour, j'ai découvert tous ces écrivains illustres français.
Vous racontez ça très très bien dans votre livre, vous racontez surtout que c'est presque un miracle parce qu'en réalité, vous n'étiez pas lecteur. On pourrait croire ou imaginer que allez, vous êtes né dans une famille où la poésie était célébrée, que vous-même aviez peut-être des envies de devenir écrivain. Pas du tout, jamais. Vous dites pas même que l'écriture, la lecture, la littérature, tout ça...
En fait, pas du tout, je n'avais jamais pensé. Mais en étant un enfant, je détestais les livres et les cahiers. Avoir les livres et les cahiers dans les mains, c'était une journée noire de ma vie. Ouais. J'y étais allergique, je faisais toujours trois pas en arrière devant les livres et les cahiers.
Alors racontez-nous, comment la conversion se produit-elle? Parce que vous nous avez dit, effectivement, cette déflagration quand vous tombez devant le buste de Balzac et que vous découvrez la vie géniale de Balzac. Parce que vous savez qu'Éric Hazan a écrit l'excellent Balzac Paris, que je vais vous offrir d'ailleurs, Théa, il est pour vous.
Merci.
Voilà. Ça me fait plaisir, ça, Éric Hazan, d'entendre.
Super.
Un jeune Afghan arrive en France, ne parle pas français, et c'est devant votre saint patron, Balzac, qu'il tombe en amour dans la langue française.
Et quel français il parle?
Mais oui. Vous ne parliez vraiment pas français du tout, il y a 3 ans?
En fait, avant d'arriver en France, j'étais en Belgique. Honnêtement, il y avait une amie qui m'a donné la conjugaison de verbe être et avoir. C'est tout. C'est tout.
Alors, je dois dire que vous avez écrit ce livre en français directement. Vous auriez pu l'écrire, après tout, dans votre langue natale, le Dari, et puis le confier à un éditeur, le faire traduire. Vous avez choisi de l'écrire en français. J'ai un peu l'impression que, en étant rentré par hasard dans le cimetière du Père-Lachaise qui vous a conduit jusqu'à la statue de Balzac, c'est un autre Himalaya que vous avez voulu gravir.
En fait, dans ma langue maternelle, même maintenant, quand je prends un livre qui est déjà écrit en Dari, ça ne m'intéresse plus. Même c'est ma langue maternelle, parce que j'ai goûté la littérature dans la langue française.
Quelle déclaration à la langue française et à la littérature. Et alors dites-nous, de Balzac, vers quel écrivain allez-vous?
En fait, de Balzac, après j'ai trouvé Marcel Proust.
Ah, tout de suite?
Tout de suite.
Ah, bah dites-moi.
Marcel Proust, et puis... J'ai cherché sur sa
vie. Vous avez trouvé la tombe de Proust.
La tombe de Marcel Proust. Et d'ailleurs, j'ai lu dans le livre de Madame Saint-André, il y a un passage au cimetière de Père-Lachaise, oui, que vous écrivez que j'étais juste à côté de la tombe de Proust et j'ai trouvé une feuille sur laquelle il avait écrit « Merci pour tout, Marcel ». Et j'étais très touché par ce passage. J'avais l'impression que vous avez trouvé un de mes feuilles. Parce que parfois, moi aussi, je laisse quelques mots. Et après,
sur la tombe.
C'est peut-être vous qui l'avez écrit, alors. Parce que ils étaient... Oui, j'avais vu effectivement un papier.
J'étais très touché, vraiment.
Oui, sur un carnet. Merci pour tout, Marcel. Ce qui était quand même... Et c'est peut-être vous qui l'avez.
Ce que je trouve complètement fou dans votre aventure et qui montre une détermination sans faille, c'est que. À partir du moment où on vous raconte l'histoire de l'existence de ces écrivains, vous avez envie de découvrir leur œuvre. Qu'est-ce qui se joue en vous, selon vous? Comment le désir de lire et de connaître l'œuvre d'un écrivain vient-il?
En fait, moi j'étais au cours de français en apprenant la conjugaison de manger, boire ou d'autres verbes, mais j'avais déjà découvert À la recherche de temps perdu de Marcel Proust et du côté de Chesuan. Et dans ces phrases longues, j'adore. Et même, j'étais perdu. Quand j'ai commencé une phrase, à la fin de phrase, je me suis perdu.
Oui, ça, c'est normal, je vous rassure. Mais ça ne vous a pas rebuté, justement, ces phrases très longues de Marcel?
Mais je me trouvais dans ces phrases. Ça me parlait.
Ah ben voilà.
Et surtout, le silence et la solitude chez Proust m'a bouleversé. Donc après, petit à petit, j'ai découvert des poètes, Baudelaire, Louis Aragon, Paul Éluard. Et tous les jours, à la maison, je cherchais. Heureusement que les livres classiques sont disponibles sur Google, sur la version PDF. Donc j'ai découvert, j'ai noté une phrase dans mon cahier, puis j'ai traduisé deux mots pour comprendre qu'est-ce qu'il a raconté. Et en apprenant, j'avais l'impression qu'il a écrit pour moi.
Alors, vous êtes venu avec ce cahier dont vous parlez dans ce livre. J'aimerais que vous nous le montriez, s'il vous plaît, Mahmoud Nassimi. Car dans ce cahier, qui a-t-il exactement ?
Alors, dans ce cahier, il y a la plupart des écrivains classiques. Tous les jours, je cherchais un écrivain ou un poète, un philosophe ou un artiste. Je le voyageais dans mon cahier pour en savoir plus sur lui. Tout d'abord, mon cahier commence par Jacques Brel.
Jacques Brel, que vous considérez comme un écrivain,
Un poète. Pas un écrivain, mais Jacques Brel, c'est un homme extraordinaire. Moi, quand j'ai découvert Jacques Brel en Belgique pour la première fois, c'était dans un café qu'il chantait « Le Moribond ». Et après, c'est en France que j'ai cherché plus sur lui. Un homme qui naviguait, qui chantait, qui écrivait, qui volait, jouait au théâtre, ça m'a bouleversé. Et surtout quand il déclare l'amour si merveilleusement. Et puis, il y a Baudelaire, que j'admire, j'adore. Mais maintenant, par rapport à la langue française, je ne connais pas tous ces objets qui sont là, mais je connais Baudelaire par cœur.
Vous le connaissez par cœur ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça nous donne, par exemple ? Tiens, votre poème préféré des Fleurs du Mal.
Le recueillement. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tout réclamé le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet de plaisir, sous bureau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eau. Va se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir de fondes eaux, le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.
C'est admirable.
Pouvoir de la littérature.
Stupéfiant.
On n'ose pas imaginer qu'on débarque tout seul en Afghanistan et qu'on trouve les poètes et les écrivains qui peuvent nous faire vivre l'aventure dans l'autre sens. C'est vraiment... c'est merveilleux.
Merci.
Il y a une correspondance, me semble-t-il, entre vos deux livres, d'ailleurs, Lydia Flemme, votre Paris fantasme, dont on tournera les pages tout à l'heure, et L'Afghan à Paris, de Mahmoud Nassimi. C'est cette idée que les morts ne sont pas muets.
Ouais.
Le Père Lachaise, la rue Férou, finalement, même combat.
Oui, c'est ce que je me disais. C'est quand même merveilleux de débarquer dans un cimetière et d'y trouver la vie, d'y trouver l'échange avec les morts qui ne sont pas morts, parce que les écrivains ne sont pas morts. Pour nous, ils sont vivants. Et vous leur... ce sont des amis que vous trouvez.
Oui.
Ce que je trouve extraordinaire dans votre livre, c'est vos moments d'émerveillement. Alors, les moments d'émerveillement de Mahmoud Nassimi, ce sont les mots. Par exemple, en lisant Guy de Maupassant, vous écrivez que vous êtes tombé sur le mot « clapotement ». Est-ce que vous connaissiez à l'époque le sens de ce mot « clapotement » ?
Pas du tout. Alors moi, je suis né à la campagne en Afghanistan, qu'il y avait toujours les rivières partout. Et en découvrant ce mot dans un de ses livres, j'ai découvert que la rivière de mon enfance qui surgit tout d'un coup. Et comme ça que tous les jours, quand j'étais à la maison, j'ouvrais un livre classique, je passais mon index sur chaque ligne. C'est le conseil de ma grand-mère. Quand j'étais en Afghanistan, je détestais les livres. Et ma grand-mère me disait, « Mon fils, si tu ne l'aimes pas, prends-le quand même et passe ton index sur chaque ligne. Peut-être qu'il y a un moment, il y a un mot qui sera le clé du livre.
Oui. »
Et que tu vas entrer dans l'histoire. Mais je passe mon index et tout d'un coup, je trouve un mot sonore qui me parle. Et j'introche le dictionnaire et je me suis dit, tiens, ce mot-là, depuis une semaine ou 10 jours, j'étais en train de chercher ce mot. Donc comme ça, tous les jours, je rassemblais une dizaine de mots, 20aine de mots, puis construisais des phrases.
Voilà un exemple de ce que peut faire la lecture de ce que nous offre la littérature. Vous écrivez, Mahmoud Nassimi, page 23, « C'est une profonde peine d'être jugé au lieu d'être compris. » En parlant du réfugié que vous êtes dans les rues de Paris, est-ce que vous diriez que précisément cette découverte de la littérature, des mots précis, des mots justes pour dire ce que l'on ressent, vous permet de dépasser ce que certains pourraient mettre du côté de l'échec, de l'amertume ou du ressentiment, et qui chez vous est toujours, et c'est très frappant dans le livre, l'antichambre de la victoire.
Tout à fait. Parce qu'avant de découvrir la littérature française, la vie était lugubre pour moi. Et quand j'écris cette phrase, c'est vrai qu'en Afghanistan, moi, j'avais une famille. Je faisais mes études. J'avais une maison, une belle vie. Mais alors qu'en arrivant à Paris, bien sûr qu'en étant un réfugié, pas un logement pour dormir, pas prendre une douche, avec les vêtements sales, quand je marchais dans les rues, j'avais l'impression que les gens tournaient la tête. Et ils avaient raison, peut-être. Ils croyaient que j'étais un mendiant ou un voleur. Alors qu'au contraire, moi, j'avais envie de sourire, de parler, de raconter, de construire d'amitié. Mais il n'y avait personne de me comprendre. Et quand j'ai découvert le cimetière de Père-Lachaise, je peux dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas autant d'amis dans le monde vivant que j'avais dans ce jardin de fantômes.
Ah, vous savez, les fantômes, parfois, c'est nos meilleurs amis. Hein.
Exactement. Et la littérature française a basculé ma vie.
Superbe déclaration d'amour à la littérature française. La Grande Librairie est citée, page 46, et je dois dire que vous avez raison quand vous écrivez que je fais siffler un petit peu trop le son S quand je parle. Un peu trop, c'est vrai. Mais je vais vous en donner la preuve. Savoir sans cesse écouter l'émotion permet de savourer la splendide surprise de cette semaine. Soyez sûr que ce sera un succès. Ça s'appelle « Un Afghan à Paris », Mahmoud Nassimi. C'est publié aux éditions du Palais. Lisez-le, c'est un véritable bonheur. Notre promenade dans un Paris insolite et que vous ne connaissez peut-être pas va se poursuivre et nous emmener vers un lieu. Vous allez me dire, Mahmoud Nassimi, si vous les connaissez, ces lieux de Paris, qui est le 7e arrondissement avec Alix de Saint-André, 57 rue de Babylone, Paris 7e, vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors, je le disais, c'est un titre et une adresse. À cette adresse se trouvait, figurez-vous, une pension de famille, le Home Pasteur, dont Alix de Saint-André retrace l'histoire, sa smala et sa saga. Et je veux dire que c'est absolument passionnant, à la fois mélancolique et drôle, impertinent et tendre, bourré d'auto-dérision, parce que c'est aussi un peu une autobiographie, Alix de Saint-André. Vous commencez par résumer la philosophie du 7e arrondissement. Entre les sabres de l'école militaire et les goupillons des très nombreux couvents, les gens rentrent chez eux le soir, mais alors sans hurler hein, aux terrasses des cafés. Que disent-ils, Alix de Saint-André, et avec quel accent surtout ?
Avec un accent dental, n'est-ce pas ? Elles disent « Nous avons horreur de la vulgarité ». Faut-il vraiment une autre philosophie, en effet ?
Oui, ça, c'est la première page de votre livre.
Oui.
Avouez que ça ne donne pas très envie d'aller s'y balader.
Ça n'est pas très attirant en soi, le 7e arrondissement, effectivement, entre les sabres et les goupillons, l'école militaire. Mais ça a quand même son grand attrait touristique, car nous avons Napoléon.
Ah, vous ouais. Dites-nous maintenant.
Bah, que vous le 7e, allez, vous je vais le prendre pour ouais. cause pour l'arrondissement. Ouais. Maintenant,
défendez donc, le 7e.
Bah, parce absolument. Il y a une apparition de la Sainte Vierge. Donc vous avez l'église, il y avait la chapelle miraculeuse. Vous avez le Napoléon, vous avez la Tour Eiffel. Donc c'est quand même trois, j'allais dire, spots, comme on dit maintenant, magnifiques, qui attirent en tout cas tout le monde, même si les gens ne savent pas qu'ils le connaissent, tout le monde connaît le 7e arrondissement, puisque c'est quand même toutes les cartes postales, les meilleures sont faites là.
Donc, alors, voilà. Vous auriez pu, j'allais dire, presque nous ennuyer si dans ce livre, vous aviez listé toutes les cartes postales et tous les clichés du 7e. Mais vous faites l'inverse, parce que vous allez chercher dans la rue de Babylone un endroit devant lequel on passe sans s'arrêter. Beaucoup de gens, d'ailleurs, peuvent le voir. On ne voit plus qu'un cinéma, c'est la pagode. Le cinéma La Pagode. Et alors, si on va juste à côté, au 57 rue de Babylone, se dressait, car aujourd'hui, malheureusement, on ne le voit plus, le Home Pasteur. Qu'est-ce que c'était que le Home Pasteur ?
Alors, c'était, le Home Pasteur était installé en haut, au deuxième étage de cet immense bâtiment qui est devenu à un moment le conseil régional. Vous avez peut-être vu ça. Donc, c'était une grande maison et ils étaient au deuxième étage. Il y avait une pension de famille que j'ai découverte car je me suis retrouvée en classe avec Pia, qui était pieuse, qui faisait la diresse Pia, et qui était ma voisine au lycée Victor Duruy, et dont je me suis d'abord dit que je trouvais très étrange parce qu'elle était entièrement vêtue de bleu marine. Or, s'il y avait une chose qu'on souhaitait à 17 ans au lycée, c'était justement d'être habillée autrement qu'en bleu marine. La première chose que j'ai vue, c'était qu'elle était à côté de moi, elle imitait les professeurs. Et ça, c'est tout de suite sympathique, parce que le premier jour de la rentrée, tout le monde lui demandait des nouveaux sketchs, et c'était très amusant. Et elle m'a entraînée derrière elle à entrer dans le Home Pasteur, enfin, entrer dans cet immeuble, que j'ai trouvé, en fait, normal. Parce que moi, qui venais de la campagne...
C'est une maison, enfin une maison.
Enfin, une vraie maison, normale, sans ascenseur. Moi, j'habitais à la campagne, on avait des maisons comme ça, avec des maisons qui s'ouvraient, qui avaient plusieurs étages, et où il n'y avait pas d'ascenseur. Ouais. Alors que dans notre appartement parisien, ça me paraissait... J'avais l'impression d'être dans un feuilleton américain. Alors qu'en rentrant chez Pia, je me dis, enfin, une vraie maison où on peut monter à pied, où il n'y a pas d'ascenseur, et tout en haut, il y avait des cuisines... Sur les toits de Paris, ce qui est toujours, vous en parlez, le zinc et tout, les toits de Paris, c'est quelque chose de magnifique, où trônait sa mère, Madame Muller, dite Cocotte, qui faisait la cuisine tout en écoutant France Musique à plein tuyau, avec une clope, alors à l'époque, enfoncée jusque dans les oreilles, et voilà, les mains comme ça, bien à plat, elle faisait trois trucs en même temps, et elle avait une sacrée allure, voilà. Et j'étais tout de suite fascinée par ce personnage, parce que peut-être plus encore de la mère de Pia que de Pia, parce que j'avais jamais rencontré des gens qui utilisaient la culture dans leur vie quotidienne. Vous voyez, nous, on avait la culture à l'école, on lisait des livres, on avait des parents qui disaient des livres, mais tout d'un coup, Proust était vivant. Oui. Voilà. Et elle codait tout le quartier, comme ça, par leur lecture de Proust, enfin voilà.
Alors ça commence comme un conte de fées, en réalité. La petite Alix arrive à Paris, se fait une amie, pense qu'elle est très classique, et puis découvre une famille un peu fofolle, mais... Très rapidement, le récit prend une autre dimension. Vous écrivez, page 88, dans cette pension, il y avait toujours une histoire qu'on présentait au public, une histoire officielle, et une autre histoire derrière, comme un faux passeport moral. C'est-à-dire...
Ça, c'est Dick qui raconte ça. C'est-à-dire que...
Dick, c'est l'un des personnages. Hein, vous avez fait une enquête où chacun des années plus tard vous raconte son home pasteur.
Voilà, parce qu'officiellement, donc, les sœurs Sabelli, Madame Muller et sa sœur Monica, étaient nées à Venise, au Lido, comme dans Meurs à Venise, et leur père était arrivé en France après avoir chatouillé les moustaches de Mussolini dans le mauvais sens. Voilà, donc, c'était une sorte de figure comme ça, de résistant, et la grand-mère, elle, qui était française, a repris la pension pour nourrir sa famille. Elle était elle-même quelqu'un qui avait fait des études, elle était très calée, la grand-mère.
Et pendant la guerre, elle abritera les résistants
Alors, il y avait la célèbre histoire du fameux Montcharge, qui était que la grand-mère, justement, pendant... Il y a eu une descente des Allemands en 1942, et la grand-mère s'est collée contre la porte, parce que contre la porte, il y avait des résistants, mais il y avait aussi des amis juifs au-dessus. C'était une poudrière, tout ce qu'il ne fallait pas trouver. Et heureusement, ce qui arrivait souvent, c'est qu'il y avait un mélange de chance et de bêtises aussi du soldat. C'est-à-dire que le jeune soldat, au lieu de s'intéresser à ce qu'il y avait derrière, tombé sur le monte-charge. Il a vu ça. Un monte-charge. Mais enfin, c'est une machine infernale, ça. Mmh. C'est rempli de poulies, de cordes, de... Donc, le jeune Allemand, il s'est passionné pour le monte-charge et il s'est plus du tout intéressé à ce qui se passait en vrai dans la pension. Et il est reparti et elle a pu sauver tous les gens qui étaient dans la pension, la grand-mère.
Ça, c'est la grand-mère, personnage en couleur. Ce qui est intéressant, c'est que vous découvrez peu à peu, à travers les différents témoignages et récits et souvenirs de ceux qui sont passés par la pension, vous découvrez qu'il s'est passé plein de choses que vous ne voyiez pas, vous, à l'époque. La face un peu plus sombre des personnages, et notamment de Cocotte. Est-ce que vous saviez, à l'époque, ce que vous avez découvert ensuite ? C'est-à-dire que cette copine, Pia, a une mère qui la rudoie, un père volage qui ne s'intéresse aucunement à
elle. Ah, le père volage, ça, tout le monde le savait, parce qu'il le racontait à tout le monde. Alors ça, vraiment, c'était pas un secret.
Et le frère pervers volage, qui va la précipiter entre les mains d'un pédophile.
Ça, on l'a. Je le savais, moi, mais les autres ne le savaient pas forcément. C'était un univers un peu particulier.
Ah ben ça, oui, effectivement. C'est aussi votre livre, Alice de Saint-André, un formidable portrait, je trouve, des années 70 à Paris, avec des personnages, dont un dont j'aimerais que l'on parle. Qui était-il? Paul Jégoff.
C'était un personnage qui était ami avec certains membres habitants de la pension et qui était un romancier, qui était un scénariste de Chabrol, qui était spécialiste de qui était un personnage diabolique. Et il s'était fait remarquer à la pension parce qu'il y avait une Joconde contemporaine de celle de Léonard. Pas une copie, si vous voulez, mais qui avait une certaine valeur, puisqu'elle était, elle était contemporaine de celle de Léonard. Et juste à la Libération, justement, personne ne fermait les portes, n'ouvrait, il y avait pas de... Et un beau jour, donc, Samuel, le père de mon ami Pia, qui était propriétaire de cette Joconde, et la Joconde disparaît. Et Jégoff, qui était un de ses amis, lui dit, mais enfin, il ne faut pas se laisser faire, il faut aller voir la police, c'est scandaleux, enfin, voyons, on ne va pas se laisser faire par les brigands. Ils sont allés voir la police, évidemment, il s'est avéré que, comme par hasard, après enquête, celui qui avait volé la Joconde, c'était le cher Jégoff. C'est un personnage comme ça, un peu diabolique.
Alix de Saint-André, est-ce que vous croyez qu'à force d'écrire des choses horribles, il arrive des choses horribles?
Ben, c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que lui, il s'est fait assassiner par sa femme la nuit de Noël. Et il paraît que son dernier mot, c'est « tue-moi si tu veux, mais ne m'emmerde pas ». C'est une belle phrase de fin, ça lui va très bien. Il avait des phrases comme ça dans les films de Chabrol.
C'est un livre qui porte la trace aussi du journaliste, parce que c'est une enquête. Vous avez voulu retrouver celles et ceux qui sont passés à différentes périodes d'ailleurs de l'histoire, par la pension. Ce n'est pas la pension Vauquer, comme chez Balzac. Mais
heureusement pour Madame Muller, parce qu'elle était, Madame Vauquer n'était pas très très sympathique.
Oui, ça c'est vrai, la vieille Vauquer, non. Enfin, cela dit, la Muller pourrait figurer chez Balzac, non?
Si.
C'est un personnage balzacien tout de même.
Tout à fait, mais c'est monsieur qui connaît Balzac. Hein.
Qu'avez-vous trouvé en faisant cette enquête, qui est une enquête aussi dans vos propres souvenirs, dans ces souvenirs de passage, qui est un moment important, le moment où on a 17 ans, où à la fois on arrive de province à Paris, où on bascule de l'adolescence vers l'âge adulte. C'est aussi la découverte de la sexualité et de la gaudriole, pour reprendre le terme de la chère Harriet.
Alors oui, c'est beaucoup. Les Américaines découvraient à Paris à la fois la cinémathèque et le sexe, avec les Français, qui, paraît-il, est beaucoup mieux qu'avec les Américains.
Tiens,
donc, il y avait... Elle découvrait Paris, voilà. Elle racontait ça avec... Puis elle a 70 ans, Harriet, elle vous raconte ça brut de décoffrage, sans problème. Elle dit, oh, bah, surtout, à Paris, on a découvert l'amour. Enfin, elle dit le sexe, d'ailleurs. Et voilà. Et en même temps, la culture. Il y avait un mélange de cinémathèque, justement, de... On pouvait, à l'époque, justement, aller voir la Joconde en tête-à-tête. On avait un rapport avec la ville qui était beaucoup plus simple.
Et on tombait à... Vous allez me dire, c'était mieux avant, là.
Non, mais c'était... Je pense que c'était plus individualisé. Il y avait beaucoup moins d'Américains qui venaient à Paris. Il y avait des étudiantes, elles étaient moins nombreuses. Et c'était nouveau, quoi.
Vous écrivez surtout que le 7e était un village. D'ailleurs, c'est l'un des personnages, à la toute fin, qui vous le dit, c'était un village. Aujourd'hui, je ne laisserai pas, comme je le faisais, mes enfants sortir dans ce qui n'est plus un village, mais une jungle.
Ça, c'est Thomas qui dit ça. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc...
Mais est-ce que vous retrouvez, vous, cette idée, finalement,
d'un lieu matin, perdu ? J'allais chez le, j'allais faire de la télévision, donc je suis allée chez le coiffeur me faire couper les cheveux. Ça va ?
C'est très bien.
Ça va. Et donc, je vais chez mon coiffeur dans le 7e, évidemment, que je connais depuis des années, donc je vais lui offrir le bouquin. Je pose le bouquin, je lui signe un livre que je pose là, et je pars. Il me rappelle une heure après. me dit, dites donc votre bouquin, il y a un mot dedans, parce que, alors j'ai une autre cliente, elle connaît le Home Pasteur, elle était en classe avec vous à Duruy, etc. Et il me rappelle, il m'envoie la photo avec le petit mot de la dame. Donc quand je vous dis c'est un village de 7e, je ne peux pas faire mieux que de vous dire ça. Et il m'a envoyé le petit mot, Nicolas le coiffeur, bien voilà, et elle vous a laissé un mot, elle était...
Ça veut dire aussi, Alex de Saint-André, que le livre ne sera jamais terminé. C'est-à-dire que chacun y apporte une pierre comme on y apporte un souvenir.
C'est des réseaux. Pour moi, c'est des réseaux d'amitié, les livres. Mmh. On arrive à traiter. Ce qui m'intéressait en arrivant à Paris, c'est d'être ami avec des gens très différents de ceux que j'avais connus. Et ça a été le cas. Et la littérature, c'est ça, c'est devenir ami. On devient ami avec des gens qui sont morts depuis 200 ans, avec qui on n'aurait peut-être même pas supporté si on les avait connus en vrai, d'ailleurs.
C'est possible, ça, oui, il y en a quelques-uns.
Et je pense que c'est ça, et que le 7e est aussi à la fois un point de départ pour des tas de gens, et un point d'arrivée, et un point de départ dans la vie qui était...
57 rue de Babylone, Paris 7e, c'est le titre du nouveau roman d'Alix de Saint-André. C'est un roman, mais c'est aussi une enquête, et puis c'est aussi une autobiographie.
C'est un roman où la réalité dépasse tout le temps la fiction. C'est ça le problème de la réalité. Elle dépasse souvent la fiction, sans aucun problème.
Voici maintenant un petit livre absolument délicieux. Il est truffé d'anecdotes, plein de propositions, très loin de la déploration habituelle. Un petit livre qui défend cette ville dont on dit tant de mal aujourd'hui. Paris n'est plus ce qu'il était. Oui, c'est vrai, et heureusement, écrit Éric Hazan dans Le tumulte de Paris, publié aux éditions La Fabrique. Alors, ouvrez l'œil, tendez l'oreille, notez les détails, car c'est là, dans les détails, que vous trouverez l'âme de cette ville. Vous vous réjouissez vraiment, Éric Hazan, que Paris ne soit plus ce qu'il était ?
Mais Balzac le disait déjà, Paris, le vieux Paris disparaît sous nos yeux, parce qu'on était en train de démolir les gros piliers de pierre qui tenaient les toits des étals des Halles, avant Balzac. Et Balzac disait Paris n'est plus ce qu'il était.
Ouais, mais il râlait en disant ça. Vous dites, c'est bien que Paris change, que Paris ne soit pas uniquement figé dans ce que les livres d'histoire, les cartes postales, peut-être aussi une certaine tradition pour les touristes, voudraient que ce soit.
Mais il faut tenir compte du fait qu'on dit tout le temps du mal de Paris. Alors, quand je dis « c'est bien qu'il soit plus ce qu'il était », je prends un peu le contre-pied de ce que déplorent les gens qui disent « le Paris que j'ai connu ». Non, non, non. C'est un organisme vivant, avec des bouts qui tombent, des bouts qui se réparent. C'est la vie. C'est pas du tout la ville figée, vitrifiée, qu'on raconte.
Mais que répondez-vous à celles et à ceux qui vous diront « Dites-moi, Éric Hazan, Paris aujourd'hui, c'est plus tout à fait celui de la traversée de Paris, ce merveilleux livre publié il y a 20 ans. C'est devenu une ville musée, une ville qui sent bourgeoise, une ville un peu atone. »
Je crois que c'est faux. Il y a toujours à Paris une ligne qui passe, disons, par Faubourg Poissonnière, les Halles, à l'ouest, à gauche, sur le plan. C'est les beaux quartiers, mais ça a toujours été, depuis le XVIIIe siècle. Et la partie à droite, c'est le Paris populaire. Populaire, ça veut dire que les gens qui y vivent et qui y travaillent, parce que souvent, ils n'ont pas les moyens d'y vivre, mais ils y travaillent, c'est des pauvres, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est des gens qui sont pour beaucoup des immigrés ou familles d'immigrés, des Noirs, des Arabes, des Chinois.
C'est ce Paris-là qui vous intéresse, vous attire, vous berce et que vous découvrez et vous nous faites découvrir. C'est surtout celui-là, dirais-je.
Oui, oui.
Pourquoi ?
Quand je suis dans un quartier où tout le monde est blanc, genre la rue de Babylone, je m'ennuie. À Belleville, où j'habite, c'est le cinéma en permanence. On peut s'asseoir, quand on pouvait s'asseoir dans une terrasse de café, on s'assied, on regarde, et c'est un cinéma qui passe. C'est magnifique. Il y a des quartiers comme ça dans Paris qui sont des quartiers qu'on ne voit pas ailleurs.
Alors, il y a évidemment les quartiers de Paris, j'allais dire la géographie de la ville, mais ce qui vous intéresse dans ce livre, c'est un petit peu moins les lieux que les ambiances. Et je trouve que là, vous avez réussi quelque chose qui est un tour de force, c'est que vous nous faites humer Paris, les ambiances de Paris. Tiens, on pourrait commencer avec peut-être la première ambiance, le tabac. Attention, pas le bistrot, le tabac. Le tabac du coin existe encore ?
Alors, le tabac, d'abord, ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, c'est que la densité de bureaux de tabac, elle est très différente selon qu'on est en quartier bourgeois ou quartier populaire.
Vous écrivez, c'est un marqueur social, le tabac.
Oui.
Les pauvres fument plus que les riches.
Ah oui, c'est clair. Si vous faites, prenez Boulevard Saint-Germain, depuis la Chambre des députés jusqu'à l'Institut du monde arabe,
ouais.
C'est une longue distance, il y a deux tabacs. Si vous prenez la rue de Belleville, entre le métro Belleville et le métro Pyrénées, il y a une courte distance, il y a trois tabacs. Les pauvres fument plus que les riches. C'est sûr.
Quel est le plus parisien de tous les matériaux, d'après vous, tiens, Mahmoud ?
Les bruits des fourchettes.
Ah, c'est pas mal, ça. Ça oui. Pourrait être ça. Michel Audin.
J'ai lu le livre, alors c'est facile, oui. mais je suis d'accord.
Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui.
Le zinc.
Le zinc, oui.
Le zinc, ça, c'est parisien. C'est Paris, le zinc.
Ah oui, oui. On pourrait dire que c'est le plâtre. Le plâtre de Paris.
Ouais.
Et une grande partie de Paris est construite en plâtre. Et si Paris n'a pas brûlé, comme Londres, n'a jamais brûlé,
c'est
parce que Philippe le Bel a édicté que les maisons devaient être enduites de plâtre. Et le plâtre est un ignifuge, hein, c'est un grand protecteur contre l'incendie. Londres, qui était construit en bois, a intégralement brûlé. Paris, qui était plâtré, n'a pas brûlé. Donc on pourrait dire que le matériau parisien, c'est le plâtre. Mais ce
n'est
pas
celui que vous avez choisi tout de même.
Non, le zinc. Le zinc est apparu assez tard, hein, au 19e, avec Haussmann. Le zinc a recouvert les maisons, et c'est extraordinaire comme plasticité, ce matériau. Mmh. Ça permet d'entourer les cheminées, d'asseoir les chiens assis. Mmh. Et puis, naturellement, il y a le zinc, où on boit son petit noir le matin.
Il y a le comptoir.
Voilà, le comptoir en zinc. On dit sur le zinc, qui n'est pas toujours en zinc d'ailleurs, il est parfois en laiton. Mais d'ailleurs, il y a du zinc dans le laiton.
Les charrettes à bras ont disparu, écrivez-vous, mais les disparitions continuent dans les choses qui ont longtemps été l'identité de Paris. Aujourd'hui, au rayon des disparitions, il y a les maisons de la presse et les kiosques. Qu'est-ce que ces disparitions vous inspirent, Éric Hazan ?
Ah, les kiosques, c'est très, très embêtant que ça disparaisse. Parce que ça fait vraiment partie de la vie de Paris. Mon kiosquier, moi j'aime bien les kiosquiers, mon kiosquier du métro Belleville, il me raconte qu'ils ne connaissent plus les kiosquiers, ils ne connaissent plus les livreurs.
Hey.
Parce que les
ceux qui jetaient comme ça les paquets de
les
presse.
Les livreurs à vélo.
Hey.
Du temps que le quartier de la presse était localisé en centre de Paris, quand les rotatives avaient fini de tourner, une nuée de livreurs avec des vélos avec la route devant plus petite pour le porte-bagages, les nuées de livreurs allaient livrer dans tous les kiosques. Mmh. Maintenant, c'est fini parce que les paquets de journaux sont jetés la nuit dans des boîtes qui sont à l'arrière des kiosques
et qui sont fermées.
Et qui sont fermées.
Ouais. Alors, vous liez ça, et c'est passionnant aussi, à la disparition, à la lente transformation de la presse, à l'exil, l'exode, en quelque sorte, des imprimeries. Autrefois, toute la partie qui s'étend sur la rive droite du côté des grands boulevards était constituée à la fois des adresses des grands journaux, mais aussi des imprimeries qui étaient imprimées.
C'était le même bâtiment.
C'est le même bâtiment, oui.
Dans le même bâtiment, il y avait dans le sous-sol les rotatives, la presse, et dans le haut, la rédaction. C'est un immeuble, un journal, c'était un immeuble.
Michel Audin, quel regard portez-vous sur le livre d'Éric Hazan et à la fois, j'allais dire, ses odeurs, parce qu'on sent dans le livre d'Éric Hazan des choses qu'on ne sent dans aucun autre livre. On entend aussi des bruits, hein, les bruits de Paris, tout ce tumulte.
Oui, c'est exactement les quartiers dans lesquels je me promène et j'entends ces bruits et j'entends ce tumulte. Je le raconte pas, certainement pas comme Eric, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. C'est ma traversée de Paris, c'est et assez semblable à celle d'Eric.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est qu'il y a des propositions. Voilà, c'est bien. Allez, la déploration, c'est une chose. Proposons le nouveau Paris. Et c'est Eric Hazan, je peux dire votre âge, 84 ans, qui fait les meilleures propositions. Par exemple, on pourrait commencer par débaptiser quelques noms de rue.
Oui.
Ah, franchement. Dites-moi pourquoi on a une avenue MacMahon, qui fut un président, je vous laisse en parler.
Un général battu, un président de la République factieux, un personnage détestable. Et une avenue MacMahon, c'est tout à fait anormal.
On a une rue Thiers aussi. Hein.
Oui, petite.
Oui, enfin Thiers, c'était petit aussi quand même.
Oui, 16e.
Oui, mais enfin, c'est la rue Thiers, elle est presque clandestine, alors que l'avenue MacMahon, elle part de l'étoile.
C'est lui, que d'eau.
Oui.
Oui, oui.
Mais c'est lui aussi les massacres après la Commune.
Oui.
Entre battu et président, il a été massacreur.
Alors, vous proposez de débaptiser ces rues et puis quelques autres. Et puis, vous dites, on pourrait, ça va vous faire plaisir, Mahmoud Nassimi, l'idée d'Eric Hazan, c'est d'aller chercher des nouveaux noms de rues, notamment dans les romans. Par exemple, on pourrait imaginer une avenue Lucien de Rubempré. Ce serait pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Une avenue Lucien de Rubempré. Même une impasse Charles Swann, ça aurait même un petit peu d'allure.
Hein? Ou Albertine.
Ah oui, Albertine.
Il faut des femmes, vous avez raison. Il faut des femmes, oui.
Dans les autres propositions que vous faites, supprimer le périphérique.
C'est pas nouveau.
Non. Enfin, chez vous, c'est ardent.
Oui. Paris s'est toujours développé comme un oignon.
Un oignon.
Par couche concentrique. Il y a eu 6 enceintes. Paris a toujours sauté par-dessus la dernière et s'est répandu au-delà. Eh bien, le périphérique, comme toutes les autres enceintes, sera démoli. Et Paris s'étendra une couche de plus dans les communes qui l'entourent.
Autre proposition qui ne m'a pas tellement surpris, vous connaissant et connaissant vos positions radicales, on va dire, vous dites qu'il faudrait faire sauter la préfecture de police de Paris, enfin celle qui est sur l'île de la Cité. Bon, ça, je vous comprends. Mais alors pourquoi faire sauter l'Hôtel-Dieu qui est juste à côté?
Pour ouvrir un grand espace entre les deux bras de la Seine. Ce serait bien.
Ce serait pas mal.
Qui irait de la façade de Notre-Dame au palais de justice.
Donc on détruit la préfecture, on détruit l'Hôtel-Dieu, on garde la justice au milieu.
Non, elle n'est pas au milieu.
Elle est un peu derrière.
Côté.
Oui.
Non, elle est sur le côté. Ouais. Elle ferait face à Notre-Dame et ça libérerait un très grand espace sur lequel il faudrait, selon moi, construire un quartier. Pas des avenues où il n'y a que des rhumes à attraper, comme l'avenue de Flandre ou l'avenue de France. C'est cet urbanisme tiré au cordeau, dessiné sur ordinateur par des gens qui n'y mettent jamais les pieds et qui n'y mettront jamais les pieds. Non, un vrai quartier avec des boulangeries, des cafés, des cinémas.
Des librairies.
Et confier la construction de ce quartier à quelques architectes modestes, qui ne font pas des grands gestes architecturaux, et faire travailler les maçons portugais, maliens du 93. Laisser une place à la lenteur et à l'autoconstruction. La lenteur, c'est très important. Pour construire
mais
un quartier.
Mais Paris n'est plus une ville de lenteur, Eric Hazan. C'est devenu une ville, justement, de tumulte, de bruit incessant, de rapidité, de voies rapides absolument partout.
On ne peut pas construire un quartier qui mérite ce nom à toute vitesse en attendant les retours sur investissement. Ce n'est pas possible. Un quartier, ça se construit lentement, pièce par pièce.
Lydia Flemme, quel est votre regard? Alors, à la fois de flâneuse, de promeneuse parisienne, parce que je sais qu'avec votre appareil photo, vous sillonnez les rues de la capitale, mais aussi de psychanalyste sur les propositions d'Eric Hazan.
Ouais, d'abord, je dois dire mon admiration pour Éric Cazan, parce que l'invention de Paris, la traversée de Paris sont des livres qui ont été essentiels pour moi, qui ont été comme une autorisation à oser écrire sur Paris. Donc, je trouve ça formidable. Moi, je ne suis pas une flâneuse, malheureusement. Alors, je ne sais pas si je suis dans la catégorie des écrivains de Paris, parce que j'ai des problèmes avec l'espace. C'était une des raisons pour moi d'écrire Paris fantasme, qui est peut-être plus un fantasme qu'une ville dans les pieds. Et puis, vous savez, il n'y a pas tellement de femmes qui flânent dans les villes. C'est plus les hommes qui flânent.
Paris est une ville dangereuse pour les femmes.
Il y a quand même des quartiers où on a un peu peur. Il y a des heures où on a un peu peur. Et j'allais dire, il faudrait qu'en effet, les femmes puissent se réapproprier l'espace et puissent aussi y stationner. Parce que c'est beaucoup les hommes qui stationnent dans l'espace. Les femmes, elles traversent l'espace. Elles vont chercher les enfants, elles achètent des choses, elles rentrent à la maison. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des architectes et aussi des urbanistes qui réfléchissent à la place de la femme, des femmes, dans la ville. Parce que souvent, traditionnellement, les femmes sont à l'intérieur. Elles ne se promènent pas dans l'espace. Donc, ce que vous dites me plaît tout à fait, avec l'idée qu'il y ait une mixité dans l'espace.
Sûrement, vous avez raison. Je suis d'accord avec ça.
Mais j'ai remarqué que vous parliez de noms de femmes pour les rues. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, parce que vous rêvez d'un petit musée, vous dites un petit musée du surréalisme, avec des photographies. Et moi, j'ai un endroit à vous proposer, j'ai une adresse à vous proposer.
Formidable.
C'est le 2 bis rue Férou, où Man Ray a eu son atelier pendant 25 ans. Et il faudrait s'informer, c'est pas impossible que ce soit le moment.
Ah, ça serait bien.
Ce serait formidable.
Ah bah oui.
Allez, tiens, on ouvre un musée du surréalisme chez Man Ray, 2 bis rue Férou. C'est lancé, ça vous va? Page 37, vous posez cette question, Éric Cazan. Il est facile de repérer une bonne boulangerie ou un bon marchand de vélo. Mais une bonne librairie, quel est le critère?
Je pense que c'est la cohérence des choix. Je pense que ça se lit de la façade, depuis la façade, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise librairie. Si on a l'impression que la façade, dans la vitrine, il n'y a que des livres qui sont là par hasard, ce n'est pas une bonne librairie. Il faut qu'il y ait un fil rouge qui les relie, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une cohérence. Je pense que c'est très important. Et quand on entre, c'est pareil. Ou on a l'impression qu'on a ouvert les cartons et mis les livres comme ça, ou bien il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont dit on va faire une table sur tel thème. Et ça, c'est du boulot.
C'est un peu de lenteur, mais c'est aussi le plaisir dont parlait Marmoune tout à l'heure, c'est-à-dire le plaisir d'aller d'un livre à l'autre, d'un écrivain à l'autre.
Une bonne librairie, on rentre pour chercher un livre, il n'y est pas, mais on part avec un autre.
Le tumulte de Paris. Allez le chercher, celui-là, demain, en librairiste aux éditions La Fabrique, sous la signature d'Éric Cazan. Vous écrivez d'ailleurs dans ce petit livre, page 35, Éric Cazan, que le réseau de librairies à Paris est le plus dense et le meilleur du monde.
Oui.
Pas seulement de France, du monde.
Du monde.
Ah, carrément. Ah, très bien, moi ça me va.
New York, Londres, il y a trois librairies à Londres.
Ouais. N'exagérez pas non plus, mais bon. Je vous emmène en librairie comme chaque semaine où je vous propose, vous le savez dans cette émission, de découvrir une librairie de France, une librairie indépendante évidemment. Alors, évidemment ce soir, on aurait pu choisir une librairie de Paris, mais j'ai eu envie de prolonger la balade jusqu'au Quai de Seine. C'est là que se sont établis les bouquinistes à la toute fin du XVIe siècle. Et aujourd'hui, ils sont un peu plus de 200 bouquinistes. Parmi eux, Mathias Grandis de Portefaix, alias Monsieur le Marquis, que je salue. Il est installé quai de la Tournelle. Voici le portrait d'un libraire à ciel ouvert, signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez et surtout, écoutez bien.
Les bouquinistes, c'est l'âme de Paris. C'est une petite famille, on n'est pas nombreux, on se connaît plus ou moins tous. Moi, la philosophie du bouquiniste, c'est de contenter quelqu'un et de l'amener à la lecture. Ça, c'est capital. Je possède 4 boîtes, comme la plupart de mes confrères, avec la spécificité que moi, je ne fais que de l'histoire. Le problème, c'est pas de vendre les livres, c'est de les trouver. C'est des livres qui ne sont plus édités. Le prix n'est pas synonyme de bon livre ou de mauvais livre. Au besoin, je vais dire aux gens, vous n'avez jamais rien lu sur Louis XI, achetez le Kendall, ça vous coûte 3 euros. Par contre, si vous avez déjà lu beaucoup de choses, achetez-moi le Champion, celui-là, vous voyez, je le vends 50 euros. Forcément, 1927, c'est un peu la Bible. Si les gens veulent avoir un bouquin bien spécifique, on en parle. Et donc, je leur dis, bah, écoutez, laissez-moi une semaine ou deux et je vais voir ce que je peux faire pour vous. Parce qu'il a déjà tout feuilleté, il a déjà tout regardé, Internet et tout. Donc, nous, on doit être meilleurs. Mon roman d'aventure, Le Comte de Monte Cristo. Ah, Edmond Dantès, Mercedes, Danglars, Villefort. C'est une vie d'aventure. Puis l'amitié trahie, les relations, le pari, les femmes. Extraordinaire. On se rêve tous en Edmond Dantès. Le livre réjouissant, Diablerie, d'Evelyn Vaught. Oh, ce prince africain qui mange des sardines avec une corne à chaussures en regardant par la fenêtre les jardins du château de Versailles. C'est le début du livre, remarquable. Mon historienne, c'est Jacqueline de Romilly. Jacqueline, c'est le summum. Et son Thucydide est une approche de la Grèce par les textes, par les hommes, remarquable. Hector, Alcibiade, tous ces livres, fabuleux. Moi, la poésie est quelque chose qui me touche beaucoup. Par exemple, les amoureux fervents, les savants austères aiment en leur mûre saison les chats puissants et doux qui, comme eux, sont frileux et comme eux, sont sédentaires. Baudelaire. Le livre sur Paris, c'est celui de M. Favier, qui est un très beau livre, très important, qu'on ne lit pas, mais qu'on consulte, qu'on lit à petite dose, régulièrement, car Paris ne se lit pas d'une traite. Paris se lit au fur et à mesure des jours, des mois, des années.
Paris ne se lit pas d'une traite. On prend son temps. Éloge de la lenteur, encore une fois. Voici un livre absolument fascinant que publie Lydia Flemme aux éditions du Seuil. Paris fantasme. Ah, alors, Paris fantasme, voilà qui appelle quelques explications. C'est l'histoire d'une petite rue de Paris, la rue Férou. Elle se situe, la rue Férou, entre le jardin du Luxembourg et l'église Saint-Sulpice, ou la place Saint-Sulpice, comme on préfère. Dans cette rue, ont vécu, tenez-vous bien, Athos, l'un des trois mousquetaires, mais aussi, on en parlait, Maneret, Colette, Madame de Lafayette, Chateaubriand, Voltaire y a traîné, et tant d'autres. L'histoire de cette rue devient fascinante pour le lecteur, pour celui qui ne la connaît pas, car vous réveillez, Lydia Flemme, la rue, et vous reliez cette histoire à une question existentielle. Qu'est-ce qui donne le sentiment d'être chez soi, quelque part? Qu'est-ce qui donne le sentiment d'être à la maison? Racontez-nous comment ce livre est né, qui est un livre tout à fait étonnant, parce que c'est à la fois de l'autobiographie, une traversée de la rue de Paris, un livre d'histoire.
Oui, c'est très étrange, parce que j'étais depuis toujours, il y avait une question qui me taraudait, qui me disait, mais où est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu peux être chez toi quelque part? Et je n'arrivais pas à répondre à cette question. Et puis, je suis tombée en amour, comme on dit, pour cette rue de Paris, la rue Férou. C'est Maneret qui m'y a emmenée, parce que j'ai découvert à la fin de son autoportrait qu'il y avait vécu 25 ans, alors que bien sûr, je savais qu'il avait vécu à la rue Campagne Première, dans les années 20 et 30. Mais quand il est revenu à Paris après la guerre, il a vécu là, dans un atelier tout à fait glacial, mais extraordinairement lumineux, qui se trouvait entre un hôtel particulier et ce qui était dans le temps le séminaire de Saint-Sulpice.
Et dont on fera le musée du surréalisme. Maintenant, voilà. Vous avez lancé l'idée tous les deux, Éric Hazan et vous.
Absolument.
Mais attendez, pourquoi la rue Férou? Vous n'y habitez pas. Alors, dans le livre, un peu comme Alix de Saint-André qui mène son enquête, à un moment, vous allez vouloir y habiter, hein. À un moment aussi, vous vous dites, mais cette rue Férou est l'objet d'un fantasme plus que d'une réalité. Pourquoi la rue Férou ?
Mais en fait, j'ai toujours un peu habité dans le coin, hein, dans différents lieux de... Voilà, c'est toujours rive gauche que mon cœur bat plus vite. Mais la rue Férou, c'était une passerelle, comme vous l'avez décrit, entre la place et le jardin du Luxembourg. Donc on l'emprunte, on la monte, on la descend, on n'en sait à peu près rien, parce qu'il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas de lieu où...
Très peu de maisons. Combien de maisons exactement ?
Une dizaine seulement. Une dizaine. Ouais. Et donc, Maneret, tout d'un coup, je me dis, mais c'est incroyable, j'aurais pu le croiser à la rue des Canettes, chez Alexandre, ou comme ça, dans le quartier. Et puis, il y a quelque chose qui se passe en 2012. C'est une fondation hollandaise qui a l'idée de demander à un calligraphe de peindre sur le mur de l'ancien séminaire des impôts, la maison des impôts du 6e arrondissement, tous les vers du bateau ivre de Rimbaud.
Alors ça, c'est une œuvre d'art en plein Paris. Est-ce que vous la connaissez, Mahmoud Nassimi, cette rue Férou sur laquelle on peut lire le bateau ivre de Rimbaud ?
Je l'avais visité une fois, oui, mais pas beaucoup.
Et donc ça, tout d'un coup, c'est un lieu, c'est comme si la ville se faisait livre. C'est comme si voilà, les mots se mêlent à la pierre et nous emmènent pour un voyage où, en effet, les Trois Mousquetaires nous avaient précédés et beaucoup d'autres, parce que c'est une rue d'écrivains et c'est aussi un décor de livres d'écrivains, Balzac, Victor Hugo, etc.
Alors on va rentrer justement dans cette rue avec les écrivains, découvrir Paris à travers la littérature. Mais avant cela, je voudrais revenir sur cette expression que vous avez employée. Qu'est-ce que ça veut dire « à la maison » ?
Ben, c'est une question, finalement, la question était qu'est-ce que ce serait d'être chez soi quelque part ? En cours de route, j'ai un peu oublié le « quelque part ». Et Maneret m'a beaucoup aidée, parce que Maneret a choisi deux fois de s'exiler de New York, des États-Unis. Il a vraiment voulu vivre à Paris, et je trouve que c'est un choix très fort. Et il a aimé être à l'étranger, être un étranger, en même temps qu'il a su fabriquer, secréter une maison. C'est-à-dire que faire maison, pour lui, c'est aussi bon. C'est un artiste. Il est capable de faire des meubles, une lampe, de jeter un tissu.
Il a peint la rue Férou. Il a appelé une de ses lampes rue Férou.
Il arrive quelque part et il jette un tissu, il fabrique quelque chose de ses mains. C'est aussi un artisan. C'est aussi quelqu'un, je trouve, qui fait maison.
Ce qui est magnifique dans ce livre, c'est à la fois beaucoup d'érudition et de recherche, et en même temps beaucoup d'inventions. Par exemple, je trouve que l'autobiographie de Ajay à la fin du livre, c'est magnifique.
Ah oui,
c'est très juste.
J'ai eu beaucoup de plaisir.
Ah oui, c'est formidable.
Alors, il faut expliquer qu'en réalité, vous vous glissez parfois dans la peau de ceux et de celles qui ont vécu dans cette rue Férou, en parlant à la première personne du singulier, en essayant d'épouser leurs sentiments, leurs sensations, les émotions que cette rue pouvait faire surgir.
Oui, je crois que ça, c'est aussi le bonheur de l'écrivain, c'est de se glisser dans la peau des autres. Et pour moi, cette rue Férou, ça représente un exercice d'hospitalité.
D'hospitalité.
C'est-à-dire de rentrer en lien avec des gens avec qui vous n'auriez pas nécessairement que des affinités. Et donc, j'ai pris dans ma rue les gens qui s'y présentaient. Donc,
on va les prendre, d'ailleurs, tiens. Et puis, on va le faire à votre manière, parce que vous commencez ce livre en dressant un portrait chinois. Tiens, et si on jouait ensemble, vous, moi, les téléspectateurs, si cette rue, la rue Férou, est-elle, Lydia Flemme, une histoire d'amour ?
Alors, c'est la princesse de Clèves. Je suis allée de surprise en surprise, parce que cette rue est d'une richesse. Je pense que toutes les rues de Paris ont cette richesse. Mais celle-là, qui est minuscule, elle a 120 mètres de long, et à chaque numéro. Et pendant tous les siècles, il y a des gens...
Il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose.
Alors, la princesse de Clèves a été écrit.
Oui, alors
Madame de Lafayette, rue Férou.
Oui, au numéro 10, au coin de la rue Férou et de la rue de Vaugirard. Ce sont ses parents qui ont acheté les terrains où ils ont fait construire la maison, au fond, d'enfance de Madame de Lafayette, où elle retourne après un mariage qui n'était pas complètement heureux. Donc, elle se retire là, elle vit là, elle reçoit La Rochefoucauld, elle reçoit Madame de Sévigné. Enfin, c'est un peu un rêve, quand même, d'avoir dans cette rue des gens de Madame de
Lafayette.
Des gens de cette qualité, jusqu'à Perret, qu'il a décrit, ouais. etc., etc. Enfin, c'est un peu sans fin.
Et si cette rue était, Lydia Flemme, un prix Nobel de littérature américain ?
Américain. Alors, voilà, Hemingway, j'avais lu quelque part que Hemingway, entre 1926 et 27, a vécu là, alors dans le plus bel hôtel, l'hôtel particulier de Mademoiselle de Luzy, qui était une comédienne du XVIIIe siècle. À un moment donné, ça cessait d'être un hôtel particulier habité seulement par une famille. Ça a été divisé en chambres, en appartements. Mmh. Et l'épouse, vous savez,
la deuxième épouse,
la deuxième épouse ouais. d'Hemingway, Pauline, elle demande à ses amis américains où est-ce que je pourrais aller habiter avec, avec mon nouvel ami et puis nouveau mari Hemingway. Et il dit, écoute, il y a une petite chose très tranquille dans une rue un peu provinciale. Et ils se sont retrouvés là où il écrit l'adieu aux armes. Oui.
Alors, ce n'est pas tout. C'est qu'effectivement, il y écrit. C'est le deuxième livre écrit rue Férou. Et puis, quel livre après La princesse de Clèves, L'adieu aux armes. Qui a racheté
Alors, très récemment,
l'hôtel de Luzy ?
Très récemment, c'est Jean-Jacques Goldman qui l'a acheté. Alors, il y a eu une succession de comtes, de comtesses. Il y a eu Hemingway, il y a eu un couple qui a tout redécoré art déco, après que la comédienne avait fait évidemment des choses magnifiques dans le style du XVIIIe siècle. Puis, il y a Schlumberger et sa fantasque épouse, Sao, portugaise, qui a repris cet hôtel, qui logeait quand même Bob Wilson au moment où il travaillait sur les...
Il y a tout le Gotha dans votre...
Oui, il y a Rothko, enfin tout le monde est là, ouais. et des grandes fêtes parisiennes absolument démentes.
Si cette rue était un visiteur du soir ?
Alors je pense que c'est Voltaire qui connaissait, qui était très proche de... D'une jeune femme qu'il avait appelée Belle et Bonne, qu'il considérait comme sa fille adoptive, et qui avait épousé un comte de Villette, qui avait au fond, Maneret vit là où avant il y avait ce qu'on appelait le cul-de-sac Férou. Et dans ce lieu-là, qui a disparu, qui a été fermé, il y avait un hôtel particulier où Chateaubriand est venu se réfugier juste avant l'immigration. Et où il a laissé...
Et où il échappe d'ailleurs à la guillotine, en réalité,
en 1792. Il oublie toujours. Hein.
Voilà,
il oublie sa femme, il oublie qu'il est marié.
Il laisse son épouse et sa sœur au milieu d'un monde révolutionnaire qui n'était quand même pas évident pour ces jeunes femmes de l'aristocratie.
Pourquoi l'avez-vous appelé Paris Fantasme ?
Je ne sais pas, ça m'est venu tout d'un coup parce que j'ai cherché beaucoup de titres, dont Rue Férou.
Non, mais là, on est du côté de l'histoire, plus du fantasme. Qu'est-ce que vous fantasmez lorsque vous retracez l'histoire de cette toute petite rue de 120 mètres ?
Beaucoup de choses. Ma mère vivait dans différents lieux de France. Elle s'est engagée dans la résistance. Elle l'avait choisi comme nom de résistance en pensant à Adrienne Monnier, la libraire. Elle s'était fait appeler Jacqueline Monnier. Elle a été arrêtée, déportée. Heureusement, elle en est revenue, sinon je ne serais pas là. Et pour elle, Paris, c'était un fantasme. C'était vivre dans ces réseaux d'écrivains, d'amitié, de solidarité aussi, d'artistes. Elle m'a transmis, toute mon enfance a été bercée par tout cela. Et puis, bon, on pourrait encore raconter d'autres histoires qui sont sous-jacentes à la rue.
Derrière toutes ces histoires, il y a tout de même une idée que je trouve très belle dans ce livre, c'est que l'autobiographie ne s'écrit jamais toute seule. Il faut les autres.
Oui.
Elle s'écrit au pluriel, semblez-vous dire, l'autobiographie.
Je suis persuadée de ça. Je suis un peu gênée quand on ramène tout à soi en oubliant qu'on est fabriqué dans les liens, dans les échanges. On est né de deux parents, de quatre grands-parents. On est né on a grandi avec des amis, imaginaires ou non. On est lié. On n'est rien sans les autres. On vit à une époque, on est pris par cette époque, par ce qui arrive autour de nous. Je trouve ça d'un égocentrisme forcené de penser qu'on est tout seul au monde et qu'on s'est fabriqué tout seul. Ce qu'on croit quand on est adolescent, qu'on est né de soi-même. Mais je pense qu'on doit énormément aux autres et que ça nous enrichit. C'est fabuleux d'être dans l'échange, même imaginaire.
Y compris, voilà, y compris un échange imaginaire, y compris quand oui. les autres sont morts il y a déjà des siècles et n'ont laissé que ah, ces merveilleux amis qu'on appelle des livres.
Oui, les livres, le cinéma, les chansons, les photos. On est tout le temps en dialogue avec les morts et avec les vivants. Oui.
Paris, fantasme de Lydia Flemme. C'est aux éditions du Seuil. Avant d'ouvrir, Michel Audin, vos deux livres, alors qui se disent ensemble, hein, c'est presque, je trouve, les deux faces d'une même pièce. On va en parler. Je voudrais vous parler un tout petit peu de lecture à voix haute. Notez bien cette date, ça y est, elle est définitive. Jeudi 17 juin prochain, vous avez rendez-vous avec les 10 finalistes de notre grand concours de lecture à voix haute pour une soirée assez exceptionnelle. Je vous promets une grande fête de la lecture et des mots. Mais d'ici là, voici quelques conseils, comme chaque semaine, pour vous entraîner ou pour mieux lire à voix haute. Conseils dispensés par Nicolas Briançon, comédien mais également admirable metteur en scène. Vous vous demandez quelle est la différence entre une lecture à voix haute et une représentation au théâtre ? Écoutez bien ce qui suit.
Quand je me perds dans la lecture d'un roman, je lis deux phrases à voix haute et j'ai l'impression d'en mieux percevoir le sens. Le fait de dire ces mots me permet de rentrer dans le texte davantage. Quand vous jouez ou quand vous lisez et que la voix que vous employez n'est pas celle que vous entendez et que vous utilisez dans la vie, c'est qu'il y a un problème. Si tout d'un coup, en lisant, vous vous mettez à faire des trucs et des machins, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait fonctionner. C'est pas parce que vous dites le mot « soleil » qu'il faut faire « le soleil ». La lecture, c'est un exercice de simplicité. Néanmoins, on peut donner quelques éléments qui font sens. S'asseoir, s'enfoncer dans son fauteuil si on est assis, marcher, pourquoi pas, marcher si ça a un sens. Mais sinon, et je dirais que quand on ne sait pas quoi faire, ne faisons rien. On ne lit qu'un livre. Le mien s'est appelé Robinson Crusoe. J'avais 10 ans. Il effaçait les autres. Aucun ne l'égalait et ne l'égalerait. Dans Robinson, j'ai pris le goût des îles et ce goût m'a poursuivi la vie entière. J'ai toujours frémi en entendant parler des îles. Rêver de celles que je connais, rêver de celles que je voudrais connaître. Et si je regarde vers le passé, je me dis que j'ai presque constamment vécu dans une île imaginaire. Le regard, c'est ce qui permet aux gens de rentrer dans votre pensée. Si, en lisant, vous pouvez de temps en temps les amener, les intégrer, leur ouvrir la porte du texte, alors je pense que vous allez gagner.
On revient à Paris et à la Commune de Paris. Michel Audin, vous consacrez deux livres excellents à la Commune. C'était il y a 150 ans, tout juste.
Oui.
La semaine sanglante, mai 1871, légendes et contes. Alors, contes orthographiés, C-O-M-P-T-E-S, évidemment, aux éditions Libertalia. Et José Meunier, 19 rue des Juifs, aux éditions Gallimard. C'est un roman.
C'est un roman ?
Oui. Roman qui retrace la vie d'une femme exceptionnelle qui a caché un communard après la répression, après les massacres et jusqu'à la loi d'amnistie qui sera votée presque 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1880. Comment et pourquoi la mathématicienne que vous êtes s'est passionnée pour l'histoire de la Commune de Paris ?
Ah, j'ai commencé par écrire la biographie d'une mathématicienne russe du 19e siècle, Sophie Kovalevsky, qui se trouve qu'elle était venue à Paris pendant la Commune, parce qu'une de ses sœurs, enfin sa sœur était mariée avec un communard, et donc elle est venue à Paris pendant la Commune, elle avait 19 ans. Et donc ça m'a rapproché de cette histoire, qui est une histoire qui de toute façon m'intéresse pour des raisons politiques. Et donc j'ai décidé d'apprendre davantage sur cette histoire.
Est-ce que vous connaissez, Mahmoud Nassimi, vous qui arrivez en France, l'histoire de la Commune de Paris ?
Non.
Alors, Michel Audin, si vous deviez raconter en quelques mots ce qu'est, ce que fut la Commune de Paris à Mahmoud, à nos téléspectateurs, que diriez-vous ? On va essayer de brosser à grands traits, résumons.
Oui, en deux mots.
Allez.
Voilà, c'est un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire où la population parisienne, ceux qui ne prennent jamais la parole, excusez-moi, qui ne sont pas dans le 7e arrondissement, surtout à l'époque, des pauvres, des gens qui ne savent peut-être pas lire, des gens, ce qu'on appelait la ville multitude, ces gens prennent la parole et prennent presque le pouvoir pendant... Ça dure 72 jours parce que c'est intolérable, ça ne peut pas durer trop longtemps, donc ça se termine dans le sang. Mais voilà, c'est ces gens-là qui n'ont jamais la parole, prennent la parole et commencent à énoncer des revendications, des idées pour que leur vie soit meilleure. Et voilà.
Donc, alors nous sommes en 1871, c'est-à-dire 6 mois après l'écrasement, la défaite de l'Empire français à Sedan.
Ouais.
Napoléon III est prié d'aller faire un tour ailleurs. Des élections ont lieu, mais lors des élections, ce n'est pas du tout ces gens-là qui prennent le pouvoir. C'est ce qu'on appellera les Versaillais.
Voilà, donc... Entre la défaite de Napoléon III et puis ces élections, il y a quand même le siège de Paris. Donc il y a une...
Les Allemands encerclent Paris. Voilà, enfin, les Prussiens.
Encerclent Paris, assiègent Paris. La ville est enfermée, pas derrière le périph', mais derrière les fortifications. Mmh. Et il n'y a rien à manger, il fait très froid. Ça dure 4 mois et demi quand même. Hein. Donc c'est un moment très, très difficile pour la population parisienne. Et après quoi, il y a ces élections, en effet, où il y a une majorité monarchiste, en fait, assez forte, qui prend le pouvoir, alors que Paris est républicain. Et en particulier, ces gens des quartiers est, nord et est de la capitale sont particulièrement républicains.
Quelles sont les revendications principales des communards au mois de mars, quand arrive l'armée qui vient réquisitionner les canons de Montmartre?
Voilà, donc il y a eu toute cette période où il n'y a pas de travail dans Paris, parce que les gens, il y a le siège et tout ça, donc tout le monde est au chômage. Et les revendications, c'est d'abord d'avoir à manger, de ne pas être obligé de payer son loyer. C'est des choses très, 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 très terre à terre comme ça. C'est vraiment une population très pauvre et qui a beaucoup souffert pendant ce siège. Après, il y a une volonté d'aller vers des réformes sociales. Il y a une réquisition d'ateliers abandonnés. On interdit les amendes. Vous alliez travailler, vous pouviez avoir des amendes en arrivant à travailler. Assez d'amendes pour qu'à la fin de la journée, c'est peut-être vous qui deviez de l'argent au patron. Quoi. Donc bon, ça a été supprimé. C'est ce genre de choses. C'est des revendications vraiment sociales, assez basiques.
Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui se passe pour qu'au mois de mars 1871, tout à coup, les Parisiens d'un côté et puis les troupes régulières s'affrontent?
Bon, ben, il y a eu cette... ils ont tenu tout ce siège, et puis le gouvernement capitule. Et ça, sans s'être battu, en fait. Donc ça, la plupart des Parisiens n'étaient pas très contents de cette situation. Et puis, il y a cette histoire de canon. Donc, ils ont... La garde nationale, donc, qui est la population parisienne, la garde nationale a acheté des canons, a payé des canons pendant le siège, pour les utiliser contre les Prussiens. Et le gouvernement n'a qu'une crainte, c'est que maintenant la classe ouvrière est armée à Paris. Donc,
elle utilise les canons.
Oui, donc ils essayent de reprendre les canons. Et puis, catastrophe, l'armée met crosse en l'air, les militaires mettent crosse en l'air et ils fraternisent avec la population à Montmartre. Ça fait très, très peur, notamment à M. Thiers, dont on a parlé tout à l'heure à propos des noms de rue, qui n'était pas quelqu'un de très courageux, paraît-il, et qui s'enfuit à Versailles et décide d'emmener avec lui tout, c'est-à-dire le gouvernement, l'administration, les administrations.
Et l'état-major.
L'état-major, bien sûr. Voilà. Du coup, tous les lieux du pouvoir sont vacants. L'hôtel de ville est vide, la préfecture de police est vide, tout est vide. Et donc, il n'y a plus qu'à les occuper.
Donc, les Parisiens s'enflamment et puis prennent, mais il n'y a rien à prendre, hein, finalement, c'est ouvert.
Il y a un comité.
Investissent.
Oui, voilà. Investissent les lieux. Donc, il y a, en fait, la seule instance élue qui existe et qui est un peu représentative, c'est le comité central de la garde nationale qui vient d'être élu. Donc, c'est des gens qui ont été élus par les bataillons de la garde nationale. Et c'est eux qui sont, bon gré, mal gré, qui sont obligés de prendre le pouvoir.
1871, c'est une révolte. ou une révolution ?
C'est une révolution. Il y a tous ces gens qui prennent la parole quand même. Mmh. C'est une révolution. Ça dure 72 jours quand même.
Ça dure 72 jours parce que très rapidement, Thiers lancera l'armée contre Paris. C'est le début d'une répression faite de massacres, d'exécutions sommaires et qui va culminer jusqu'à ce 28 mai 1871, la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. C'est à cette semaine sanglante que vous consacrez votre livre chez Libertalia, plus précisément à la question du nombre de morts. Pourquoi cette question du nombre de tués est-elle aujourd'hui, 150 ans plus tard, aussi importante à vos yeux ?
Parce que je trouve que ce qui était intéressant dans cette révolution, c'est que c'était que des inconnus qui étaient là. Et en fait, il y a eu énormément de ces inconnus qui ont été massacrés, et puis il y a eu énormément de disparitions. En particulier, disparus, c'est des gens, ils ont été tués dans la rue comme ça, leurs corps ont été emmenés on ne sait pas où. Et bon, je trouve que c'est pas juste de les laisser disparaître encore une fois en ne les comptant pas.
Voilà, il ne s'agit pas de se jeter des crimes et des cadavres à la tête, écrivez-vous, mais de considérer ces êtres humains avec respect, de ne pas les laisser disparaître encore une fois.
Exactement. Mais c'est très bien dit. C'est exactement ce que je voulais dire.
Combien de morts de part et d'autre ? Je mets de part et d'autre avec d'immenses guillemets, car côté Versaillais, il y en a 877, ça, toutes les archives le disent. Mais du côté des communards, combien d'hommes, de femmes, d'anonymes, de gens du peuple ont-ils été tués ?
Là, vous allez vous faire des ennemis parce que vous n'avez pas mentionné les otages. Donc il y a les soldats versaillais qui sont 800, je ne sais plus combien. Oui. Il y a une centaine, 60 à 100 otages qui ont été tués. Et puis il y a les parisiens.
Alors les otages, c'est à partir du 5 avril. Hein. Le 5 avril, les communards...
Le 5 avril, les communards votent un décret disant qu'ils vont tuer des otages, mais...
Ça a commencé avant.
Non, ils n'ont jamais tué aucun otage. La commune n'a jamais tué aucun otage. Ça s'est passé après, pendant la semaine sanglante. C'est un résultat de l'escalade de la violence à ce moment-là.
Vous écrivez d'ailleurs que ce ne sont pas les représentants de la commune qui décident ces exécutions d'otages, mais des gens qui ont peur.
Ah là, il y a un massacre épouvantable, celui qui est représenté là, qui est le massacre des otages de la rue Axo. Mmh. Donc c'est tout à la fin de la commune, ça se passe le 26 mai, le vendredi de la commune, de la semaine sanglante. Et donc il y a une cinquantaine d'otages qui sont des catégories haïs par la population, des gendarmes et des prêtres. Et qui sont amenés là et puis qui sont massacrés, mais vraiment de toute façon... C'est un massacre, quoi. Alors que les membres de la commune qui sont là essayent de s'y opposer, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est le résultat de l'escalade de la violence qu'il y a eu à Paris pendant la semaine, et de la terreur et de la peur. La foule est complètement incontrôlée à ce moment-là.
Ce que je trouve très intéressant dans votre livre, Michel Audin, c'est que vous revenez également sur un certain nombre de mythes, de légendes. On peut en prendre... peut-être quelques-uns parmi ces
mythes. On
n'a
pas dit le nombre de morts.
Alors, allons-y. À combien arrivez-vous ?
Non, moi, je n'arrive à rien. Non, on ne peut pas savoir exactement le nombre de morts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu au moins 10 000 qui ont été vraiment enterrés dans les cimetières à Paris et probablement au moins autant qui ont été, dont les corps ont disparu ailleurs, soit en banlieue, soit brûlés, soit... Donc, vraiment, au moins 20 000 personnes.
Parmi la population parisienne.
Parmi la population parisienne. Ouais. Revenons aux légendes.
Les légendes, entre autres, c'est le mythe des pétroleuses.
Ah oui, ça c'est le gros mythe.
Alors racontez-nous le mythe des pétroleuses.
Ben,
qui sont-elles ?
Alors ce sont des femmes qui portent des bidons de lait, comme vous savez, les bidons de lait comme on a connu dans notre enfance, les plus vieux d'entre nous. Des bidons de lait dans lesquels, évidemment, elles ont mis du pétrole et puis qui versent ce pétrole sur les maisons pour pouvoir incendier ces maisons. Alors, évidemment, il y a eu des incendies, hein, y compris, il y a eu des incendies parce qu'il y a eu une guerre, donc il y avait des obus, et puis il y a y compris des bâtiments qui ont été incendiés volontairement par les communards, comme le palais des Tuileries, par exemple. Il y avait pas, c'est pas accidentel. Hein. Bon. Mais voilà, donc c'est. Et alors, on a arrêté des tas de femmes comme ça, parce qu'elles avaient un pot à lait, donc avec des histoires, mais vraiment délirantes, comme une qu'on a attrapée, qu'on a arrêté, qui avait 140 mètres, je ne me rappelle plus le chiffre, mais je crois que c'est 140 mètres de mèche à pétrole dans la poche. Mmh. Vous imaginez, 140 mètres.
Alors, c'est le rôle des femmes que vous racontez dans le roman que je suggère à nos téléspectateurs de lire, peut-être en miroir de votre livre historique, La Semaine Sanglante. Ce roman, José Meunier, 19 rue des Juifs, qui paraît aux éditions Gallimard, raconte le réseau, finalement, des femmes qui, pendant la Commune, ont sauvé les communards. D'abord, les ont un peu comme pendant la Résistance. Hein. Oui, après la Semaine Sanglante, les ont hébergées, les ont cachées, les ont exfiltrées, leur ont trouvé des passeports. C'était une exception, ces femmes, ou pas?
Alors, mais c'est une histoire vraie, hein. Donc, moi, j'ai découvert cette histoire aux archives de la préfecture de police en lisant le compte-rendu d'une perquisition par un commissaire qui était allé dans cet immeuble. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de
bon point de départ romanesque. Ouais. Elle a disparu, hein, cette rue des Juifs, Éric Hazan, elle n'existe plus.
Ah, la rue existe toujours.
La rue Ferdinand Duval.
Voilà, elle a changé de nom.
Elle a changé de nom.
Ah, oui.
Il y a quelque chose que je trouve très bien dans cet excellent livre, c'est que vous faites clairement ressortir la relation de filiation qu'il y a entre la Commune de Paris et la grande insurrection prolétarienne de juin 48.
Mais c'est, en fait, c'est un peu quelque chose que j'ai commencé à apprendre en lisant L'Invention de Paris il y a très très longtemps.
Ah bon, le livre d'Éric Hazan.
Oui, absolument. Ces habitants de cet immeuble et de ce quartier, ils ont ce qui les rattache à Paris. C'est son histoire et c'est leur histoire. Donc il raconte sans cesse, enfin pas sans cesse, mais il raconte ce qui s'est passé en 48, ce qu'ils ont fait en 48, ce que Mademoiselle Joséphine a fait en 48.
Alors 48, juste pour resituer un petit peu les choses, voilà, c'est la fin du règne bourgeois de Louis-Philippe, c'est ce qui va nous donner la très éphémère Deuxième République qui accouchera d'un empire.
Donc, il y a cette révolution en février, une première révolution en février, celle dont vous parlez. Puis après, il y a une insurrection ouvrière au mois de juin qui est matée dans le sang. C'est une sorte de répétition générale de ce qui va se passer pendant la Semaine Sanglante. Donc, donc ces habitants se souviennent de ça. C'est leur histoire, c'est leur quartier, leur histoire. Mmh. Il y a encore des traces de balles sur les murs.
Des gens qui se sont battus en 48 sont rebattus en 71.
Ouais, voilà, donc il y en a dans le livre.
Pour quelle raison cette jeune femme, José Meunier, qui est repasseuse dans une blanchisserie, décide-t-elle non seulement d'aider un communard en fuite, mais de le rejoindre quelques semaines plus tard à Londres, où se retrouvent d'ailleurs beaucoup des communards qui ont échappé à la déportation et au massacre.
Bah, c'est une histoire d'amour, hein. C'est un roman d'amour. Hein. Donc ce livre, c'est vraiment une histoire d'amour. Elle l'aide et puis elle le rejoint et elle le soutient à Londres. En fait, le livre se passe, c'est pas un livre sur la Commune, hein. C'est un livre qui se passe entre 1871 et 1881, juste sur 10 ans. Mmh. Et la plus grande partie de ce livre se passe à Londres.
Y a-t-il eu à Londres, parce qu'il y a des spectres, hein, des fantômes, celui de Jules Vallès, Karl Marx, sa fille Jenny. Est-ce qu'on peut dire que la lutte ou l'idéal ou l'utopie des communards a perduré pendant 10 ans à Londres? Ou est-ce qu'au contraire, tout espoir de changer le monde, de changer les choses et la République avait disparu?
Non, ils espéraient encore changer le monde, je pense. Bon, après, ils croisent les gens à Londres qui les ont aidés. Je veux dire, Marx, l'Association internationale... Albertès, qui est le héros masculin, disons, du livre, était quand même témoin au mariage de la fille de Marx. Donc, ils sont très proches, ils ont été beaucoup aidés. Quand il a besoin d'argent, il écrit à Marx pour lui demander de l'argent. Et donc, ils ont quand même essayé de continuer à lutter pour leurs idéaux. Et quand ils sont rentrés à Paris, ils espéraient continuer à militer pour la République démocratique et sociale.
Éric Hazan, que vous inspire ce qui s'est passé là récemment, c'est-à-dire ces difficultés à accepter de célébrer, de commémorer les 150 ans de la Commune?
Je dirais que votre livre, c'est inverse de cette commémoration actuelle. Ça nous sort... J'ai été content de le lire parce que je dis, ah, enfin, on respire cette grande fête populaire qu'était la Commune. et non pas cette commémoration par des, disons, des Versaillais, quoi.
C'est pas moi qui l'ai dit.
La semaine sanglante de Michel Audin, c'est aux éditions Libertalia, et le roman José Meunier, 19 rue des Juifs, les 10 ans qui suivent la commune, aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que tous les livres dont nous avons parlé ce soir, eh bien, vous pouvez repartir avec en répondant à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Je vous souhaite de belles lectures et vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.